un passage au livre des juges. Nous lirons d'abord un verset au premier chapitre de ce livre des juges. 16. Et les fils du Kénien, beau-père de Moïse, étaient montés de la ville des palmiers avec les fils de Juda, au désert de Juda, qui est au midi d'Arad. Et ils allèrent et habitèrent avec le peuple. Nous tournons deux pages et nous lisons maintenant au chapitre 4. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Or, Éhud était mort, et l'Éternel les vendit en la main de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Tsor. Et le chef de son armée était Sisera, et celui-ci habitait à Tsoret des nations. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprima fortement les fils d'Israël pendant 20 ans. Au verset 13, et Sisera, le chef de l'armée, donc, rassembla tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui depuis Aroth-Seth des nations au torrent de Pison. Et Déborah dit à Barak, lève-toi, car c'est ici le jour où l'Éternel livrera Sisera en ta main. L'Éternel n'est-il pas sorti devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor et 10 000 hommes après lui. Et l'Éternel mit en déroute Sisera et tous ses chars, et toute l'armée par le tranchant de l'épée devant Barak. Et Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Et Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Tsoret des nations, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, il n'en resta pas un seul. Et Sisera s'enfuit à pied vers la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien. Car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber le Kénien. Verset 11. Or, Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens, fils de Hobab, beau-père de Moïse, et avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Tsanaïm, qui est près de Kédesh. Et au chapitre 5, encore un verset, verset 24, verset suivant. Béni soit au-dessus des femmes Jaël, femme de Héber le Kénien. Qu'elle soit bénie au-dessus des femmes qui se tiennent dans les tentes. Il a demandé de l'eau, il s'agit de Sisera, elle lui a donné du lait dans la coupe des nobles, elle lui a présenté du cahier, elle a étendu sa main vers le pieu et sa droite vers le marteau des ouvriers, elle a frappé Sisera, elle lui a brisé la tête, elle lui a fracassé et transpercé la tente. Verset 31. Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, ô Éternel, mais que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il sort dans sa force. Nous arrêtons là pour le moment. En quelques mots, nous essayerons de rappeler ce que nous avons vu hier ensemble concernant cette famille si remarquable liée à Moïse depuis que Moïse s'était enfui d'Égypte, trouvant refuge dans la maison de Jéthro, sacrificateur de Madian, Kénien, un étranger. Moïse y a vécu pendant longtemps, environ 40 ans sans doute, et cet homme lui a donné Séphora, sa fille, pour femme. Nous avons considéré quelques aspects de cette histoire typique sont rappelés, tout ce que Moïse a été, grand serviteur de l'Éternel, les grands actes qu'il a accomplis en faveur du peuple de Dieu, l'arrachant par la puissance de Dieu à la servitude d'Égypte. C'est le premier grand génocide de l'histoire, les Égyptiens se dressant contre les fils d'Israël en vue de faire disparaître ce peuple. Tout au long de l'histoire, depuis le commencement, Satan s'est employé à détruire cette nation, ce peuple, car Satan sait bien que c'est du sein de ce peuple que devait sortir, que doit sortir, qu'est sorti, celui qui devait lui briser la tête. Le peuple est sorti d'Égypte. Il y a une rencontre que nous avons considérée remarquable entre Moïse, son beau-père, Jéthro, son épouse, ses deux fils, qui portent des noms bien caractéristiques, rappelant la peine que Moïse a connue dans cet éloignement, dans cet éloignement si long, durant toute une longue période de sa vie, tant de formations, tant d'épreuves, et d'un autre côté, s'il a séjourné là dans un pays étranger, nom d'un fils qui évoque donc ce séjour douloureux, l'autre fils ne manque pas d'affirmer que Dieu est fidèle et que Dieu lui a été en aide, comme il l'est toujours pour chacun des siens, où que ce soit et dans quelques conditions que ce soit, si nous nous appuyons sur lui. N'est-il pas, dira Samuel, la pierre de secours? Et Ébénézer, le Seigneur nous a secourus jusqu'ici, depuis que je suis jusqu'à ce jour, dira le patriarche Jacob avant de s'en aller, Dieu a été mon berger, le berger qui s'occupe de ses brebis, qui n'en oublie aucune. Nous voilà donc arrivés à ce moment où commence la traversée du désert. Dans le chapitre 11 du livre des Nombres, nous avons assisté à cet entretien entre Moïse et son beau-frère, Hobab, fils de Jéthro, l'invitant à accompagner le peuple en vue de jouir du bien que Dieu a promis de faire au peuple d'Israël et dont il va bénéficier lui-même, mais en même temps comptant sur son beau-frère pour qu'il lui soit en aide en vue de trouver aisément le chemin à travers ce désert qu'il fallait franchir. Ils vont remarquer que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, c'est dès ce moment que l'arche va précéder le peuple, et c'est l'Éternel lui-même, identifié avec l'arche, nombre 11, qui va marcher devant le peuple. Nous avons assisté à une petite défaillance de Moïse qui semble compter davantage sur l'homme, sur les ressources de l'homme. Mais Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, et Moïse, on l'a bien vite compris cette leçon. Apparemment, avons-nous vu, semble que Hobab, beau-frère de Moïse, a refusé l'invitation. Mais à y lire de plus près, il a sans doute cédé à l'insistance de Moïse, présentée dans les versets qui suivent, de sorte que nous ne sommes pas étonnés, en ouvrant le livre des juges, de lire au verset 16 du chapitre 1er où nous avons commencé ce soir, que les fils du Kénien, beau-père de Moïse, étaient montés de la ville des palmiers de Jéricho donc, avec les fils de Juda au désert de Juda. Nous avons donc là une preuve que les parents de Moïse, selon la chair, parents de son épouse, frères de son épouse, ont accompagné le peuple de Dieu, ont traversé le désert et se trouvent dans la terre de Canaan. Il y a environ 70 ans, sans doute, que les événements racontés dans Nombre 11 ont eu lieu. Nous sommes donc 70 ans plus tard, et les circonstances sont bien différentes. Nous ouvrons en effet, chers amis, le livre des juges. Et on a dû répéter avec combien de raisons que ce livre correspond pour nous à la deuxième épître à Timothée, comme le livre de Josué correspond à l'épître aux Éphésiens dans le Nouveau Testament, où l'apôtre, étant donné le bon état de cette assemblée à Éphèse, peut ouvrir son cœur et déployer dans toute son étendue, dans toute sa richesse, le conseil de Dieu à l'égard de Christ et de l'Église, son épouse, son assemblée. Tant du commencement, tant de fraîcheur, tant où le cœur est engagé pour le Seigneur, où il n'y a nul partage dans ce cœur. Hélas, ce temps n'a pas duré bien longtemps. Et l'Éphèse de Jean, Apocalypse 2, est bien différente de l'Éphèse de Paul. Nous l'avons souvent entendu rappeler. Ce que personne ne pouvait voir alors, le Seigneur le découvre dans cette assemblée d'Éphèse, où il y avait encore beaucoup de bien, beaucoup de manifestations de la foi, de la vue de Dieu, où l'espérance était encore une chose réelle. Mais d'un côté, l'énergie qui produisait la foi, qui produisait l'amour, qui produisait l'espérance, font défaut. Et le Seigneur découvre ce qui n'était sans doute guère visible que pour un œil bien exercée, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. C'est la source de toute la ruine qui allait intervenir, qui n'allait faire que se développer pour se terminer par la Odyssée dont la fin est d'être vomi de la bouche du Seigneur. Le corps professant duquel nous faisons partie extérieurement, pouvons pas nous désolidariser, pouvons pas nous séparer de l'Église en général, vue comme corps responsable, mais ce qui n'est que extérieur, ce qui n'a que la profession sans la vie, ce grand ensemble politico-religieux sera vomi comme une chose nauséabonde de la bouche du Seigneur. Quelle est la conduite à tenir dans un tel état de choses que le Seigneur nous a dépeint avec tant d'exactitude? Le livre des juges est le livre alors des réveils. L'ange de l'Éternel vient parler à la conscience du peuple, à Bochim, non plus à Gilgal. Nous ne trouvons plus l'ange, le Seigneur lui-même, venant mettre son épée au service de Josué, ce capitaine intrépide. L'ange de l'Éternel vient parler au peuple, à la conscience de celui-ci. Et comme un père consterné par la conduite misérable de ses fils, vient leur dire, mais pourquoi avez-vous fait cela? Vous vous êtes placé vous-même dans des conditions qui doivent attirer sur vous la désapprobation de Dieu, l'exercice de la discipline, chose qu'il ne fait pas volontiers, c'est son œuvre étrange, inaccoutumée, mais le jugement commence par ceux qui sont le plus près de lui, c'est-à-dire par sa maison. Et nous allons entendre un triste refrain, de nouveau, les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Par quoi devons-nous mesurer l'état de choses dans lequel nous nous mouvons? Une question opportune et qui a été souvent traitée par nos chers devanciers. Si nous apprécions l'état de choses dans lequel nous nous trouvons, d'après notre propre appréciation, d'après nos propres vues, nous allons nous méprendre. Comment Dieu mesure-t-il l'état de quelqu'un ou l'état de l'Église? Toujours d'après cette mesure, mesure parfaite, mesure intangible, celle de nos privilèges. Dieu mesure notre état actuel d'après l'état dans lequel sa grâce nous avait établi au commencement. Nous aurons toujours des raisons d'être satisfaits de nous-mêmes. Mais ce n'est pas la méthode de Dieu d'apprécier l'état de choses actuel d'après une autre norme que celle du commencement. Et J.N.D. dans ses remarquables commentaires sur les églises d'Apocalypse dira, et en même temps Dieu juge non seulement d'après le point de départ, c'est-à-dire les privilèges donnés à l'église en acte 2, mais aussi d'après le point d'arrivée, c'est-à-dire ce que nous serons sur la nuée. Quel est notre état vis-à-vis de tant de privilèges reçus dans le passé et d'après tant de privilèges que nous allons connaître sur la nuée? Un réveil consiste précisément au retour que fait l'âme sur elle-même en présence de ses mesures divines. Et ce réveil consiste à mener deuil sur l'état en le mesurant non pas d'après des appréciations humaines, mais d'après ce que Dieu apprécie lui-même. Et quelle est la conséquence? C'est la repentance et le retour à ce qui était au commencement. Voilà, succinctement sans doute et bien faiblement exprimé, en quoi consiste un véritable réveil. Souviens-toi d'où tu es déchu et repens-toi. Voilà la norme divine. C'est ce que nous trouvons dans le livre des juges. Cette fois, sans doute, ils firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Mais sous la pression des circonstances, tombant sous la main des ennemis qu'ils auraient dû liquider de la scène de Canaan, il crie à l'Éternel, et l'Éternel, Dieu miséricordieux, faisons grâce, comme il l'a fait à cette famille d'étrangers, comme il le fait encore aujourd'hui. Nous parlons évidemment de la famille madianite, de la famille du beau-père de Moïse, qui allait d'ailleurs connaître un jugement terrible dans son association avec Balaam. Mais Dieu, dans sa grâce, avait sorti cette famille, l'avait appelée, lui avait fait grâce comme il veut encore faire aujourd'hui à toute âme qui se tourne, saisie par la repentance, qui vient sur un principe de foi au Seigneur Jésus, regardant à lui, sentant la nécessité d'un sauveur, réalisant son impuissance à se libérer de ses chaînes, sa culpabilité devant Dieu, se tournant vers la croix. Seigneur, étends sa main encore en disant, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Dieu plein de grâce, Dieu miséricordieux, Dieu lent à la colère, grand en bonté, pardonnait au peuple, produisait un réveil à partir d'éléments souvent bien incapables en eux-mêmes. Nous n'avons pas le temps d'exposer tout cela dans les versets que nous avons lus en deuxième lieu. Il s'agit d'un réveil opéré à partir d'une femme. Nous en dirons seulement quelques mots. Dans le premier passage, nous avons donc l'assurance que cette famille de Jéthro a suivi le peuple de Dieu à travers le désert et qu'ils sont pénétrés en Canaan. Image, comme tant d'autres, celle de Rahab, celle de Caleb, le Kénisien, celle de Ruth, la Moabite, image si saisissante, si touchante de ce qu'est la grâce de Dieu, qui déjà dans ce temps-là montre que son cœur est tourné vers tous les hommes sans distinction d'origine, de couleur de peau, de condition quelconque, de différence établie par les hommes. Dieu montre que la branche donne déjà quelques fruits par-delà la muraille et que l'on entend déjà quelque chose du prophète Ésaïe qui place dans la bouche de l'étranger ce petit dialogue, l'étranger qui dit « Oh, je n'ai aucune place dans la maison de l'Éternel », mais qu'il ne dise pas « Je suis un étranger sans avoir aucune place dans la maison de l'Éternel ». Je vais l'introduire dans ma maison, cet étranger. Au-delà de Ésaïe 53, au-delà de la croix, je donnerai à l'étranger une place dans ma maison et un nom meilleur que des fils et des filles, un nom éternel qui ne sera pas retranché. Cette famille se joint donc à la tribu de Juda, a traversé le Jourdain et à partir de Jéricho est descendue vers le sud, aux frontières que nous avons indiquées dans ce verset, jouxtant le pays d'Amalek. Un mot en passant, en quittant Jéricho, en traversant le Jourdain et en passant autour de Jéricho et ayant assisté à toutes ces scènes solennelles, quel souvenir emportent ces fils de Jéthro, cette famille de Jéthro? Le souvenir d'une ville entièrement dévastée. Mais, chers amis, la grâce de Dieu brille dans ce cas également, car il reste un bout de rempart, un pan de muraille, sur lequel chacun peut voir une maison épargnée entre toutes. Comment se fait-il que de cette ville entièrement dévastée, dans cette ville entièrement détruite, subsiste un pan de muraille, un rempart sur lequel se trouve une maison qui n'a subi aucun dommage? Si nous nous approchons, nous allons comprendre le secret. Il y a fixé à la fenêtre un fil, un cordon d'écarlate. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché, met le coupable à l'abri du jugement de Dieu, car Dieu l'a fait tomber sur son Fils. Il a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous, et par sa grâce nous voilà justifiés, par son sang nous voilà pardonnés, le sang de Jésus-Christ qui est déjà illustré, qui est déjà montré, dont le cordeau de fil écarlate. Voilà donc cette famille jointe à la tribu de Juda. Dans le chapitre 4, pour avancer un peu dans notre histoire, il y a un fait étrange. C'est que du sud du pays, de la tribu de Juda dans laquelle cette famille s'est trouvée jointe à Juda, nous trouvons l'histoire de Héber, ce Kénien, qui s'en est allé tout à fait au nord, dans la tribu de Nephtali, s'établir dans une ville de refuge. Comment expliquer cela? Mais nous n'avons dans cette parenthèse, il s'était séparé des Kéniens, fils de Hobab, beau-père de Moïse. Donc cette famille, d'une manière particulière, a quitté la tribu de Juda, à laquelle se joignait en général la famille de Hobab, mais celle-ci en particulier, celle de Héber, a donc quitté cet endroit, quitté ce milieu, et s'en est allée vers le nord, à Kedesh, dans la tribu de Nephtali. Nous ne pouvons pas nous livrer à notre imagination, mais d'autres commentateurs sérieux de la parole de Dieu nous ont suggéré, et avec intérêt d'ailleurs, que très probablement, la tribu de Juda, déjà tombée en décadence, nous répétons que nous sommes 70 ans environ après la sortie d'Égypte, le désert a été traversé, le Jourdain a été franchi, on se trouve dans le pays depuis environ 20 ans, nous disons bien environ. Alors, la décadence se fait déjà sentir, Josué a averti solennellement les anciens avant de quitter la scène, et sans doute cette famille, par fidélité à Dieu, s'en est allée se réfugier au nord à Kédège, montrant ainsi, par cet acte, ce qui gouvernait ses affections, c'est-à-dire la gloire de Dieu, l'honneur de l'Éternel, mis à mal, foulé aux pieds sans doute, d'une manière générale, dans la tribu de Juda. Illustrant ainsi ce que nous trouvons précisément dans la deuxième épître à Timothée, la nécessité de nous séparer du mal, quel qu'il soit. Si nous invoquons le nom du Seigneur, le nom de celui qui est saint et véritable, il est impossible que nous demeurions associés avec un mal quelconque. Vouloir unir le nom du Seigneur à un mal non jugé, à un mal non abandonné, c'est le dernier caractère de la méchanceté, a-t-on dit. Mais il reste dans ce chemin toujours difficile deux grandes ressources. Si nous avons lu quelque peu ces commentaires si précieux de la parole de Dieu, on se rappelle que ces deux grandes ressources, si bien désignées, si bien établies dans l'épître à Timothée, dans la seconde épître à Timothée, c'est le solide fondement d'une part. Le solide fondement de Dieu demeure, ne peut être ébranlé par l'infidélité générale. Pouvons nous appuyer sur Dieu? Il y a la puissance de Dieu dans cette épître. Il y a la puissance du Saint-Esprit, un esprit non pas de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Et Paul pourra dire en parlant du Seigneur, il a la puissance de garder ce que je lui ai confié. Pouvons nous appuyer sur ce qui demeure, sur ce qui ne peut être ébranlé. Voilà la première ressource. Pouvons nous appuyer sur Dieu. Quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, Dieu demeure et toutes les ressources de son cœur sont à la disposition de la foi. D'un autre côté, le second grand pilier de cette épître, c'est, chose sérieuse entre toutes, la responsabilité individuelle du croyant. Jamais le croyant comme individu n'est autorisé à se relâcher en quoi que ce soit, prenant prétexte de l'infidélité générale. Dieu demeure d'un côté, mais la responsabilité individuelle est toujours soulignée. Toi donc, mon enfant, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Cette famille, en quittant la tribu de Juda et sa propre famille, La maison de Héber nous semble bien manifester quelques vertus que nous venons essayer d'évoquer devant vous. La preuve, c'est qu'il est dit que cette famille jouissait de la paix avec Jabin, le roi de Canaan, qui avait comme chef de son armée Sisra, avec un imposant matériel, un potentiel militaire pour le temps, qui devait être extrêmement impressionnant, 900 chars de fer. Et il y avait paix entre Héber le Kénien et Sisra, ce chef de l'armée de Jabin qui opprimait les fils d'Israël. Mais que doit-on déduire du fait qu'il y avait paix entre cette famille et l'oppresseur du peuple de Dieu? Cela ne doit pas signifier qu'il y avait compromission, qu'il y a quelque chose d'équivoque, que l'on donne la main aux ennemis, à l'oppresseur du peuple de Dieu. Semble bien qu'au contraire, comme il a été suggéré, que cette famille, par la grâce de Dieu, épargnée par Dieu, n'est pas tombée sous la coupe des oppresseurs du peuple de Dieu. Dieu a permis qu'en raison de leur fidélité, s'étant séparés de la masse qui se trouve au sud, dans la tribu de Juda, qu'ils échappent à la pression, qu'ils échappent au sort que voulait réserver au peuple de Dieu l'oppresseur Jabin, image bien connue de l'ennemi du peuple de Dieu, dans tous les temps et dans tous les cas. Alors, il y avait paix entre cette maison de Héber le Kénien et le chef de l'armée de cet oppresseur du peuple de Dieu, mais cela ne signifie donc pas qu'il y avait une collusion quelconque entre eux. Ces personnes, cette maison fidèle, a été épargnée par Dieu. Et la preuve, c'est que cette femme de Héber, le Kénien, Jaël, va selon la chair, selon les sentiments humains, c'est quelque chose d'horrible, l'acte commis par cette femme. Mais c'est un acte de foi extraordinaire. Et le nom de cette femme brille au firmament de tous ceux que Dieu a honorés. Béni soit Jaël, femme de Héber le Kénien. Mais elle nous donne une leçon importante. Nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails, sans doute. Nous essayons d'en souligner quelques-uns en passant avec la grâce de Dieu. Cette femme ne sort pas de l'enceinte dans laquelle Dieu a tracé le cadre de sa vie. Non pas que la femme sans doute soit inférieure, que la femme ait un rôle secondaire, un rôle peut-être méprisable, absolument pas. Elle peut faire beaucoup de choses, elle peut faire de grandes choses liées à sa sensibilité, à sa nature, à son cœur aimant, chose qu'un homme sans doute ne peut pas, ne pourrait pas faire, n'a pas la capacité, n'a pas les facultés pour faire ce qu'une femme peut faire. Mais dans le cadre que Dieu lui a tracé, administrativement, Dieu, Christ, l'homme, la femme. Et cette femme, tout en accomplissant un acte extraordinaire et étant la cheville ouvrière d'un réveil merveilleux au milieu du peuple de Dieu, ne sortira pas de la sphère dans laquelle Dieu l'a placée. Comme Sarah en son jour dira à l'apôtre Pierre, qui ne sortait pas de la tente, qui appelait Abraham Seigneur, montrait les vertus de la foi, de la piété, dans le cadre assigné par Dieu. Dans un jour où, comme au temps d'Israël, au temps de la ruine finale, si nous lisons attentivement le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, nous verrons quel était le rôle des femmes, de certaines prophétesses, à la solde de Satan pour conduire le peuple, pour le précipiter dans la ruine finale. Nous nous permettons de poser la question, ne voulant offenser personne, mais en va-t-il différemment aujourd'hui? La recrudescence de cet esprit que nous venons d'essayer de dépeindre devant vous, et dans lequel les femmes s'affirment de tant de manières, de façon différente et au plus élémentaire de la parole de Dieu, n'est-ce pas un signe des temps? Cette femme, au contraire, demeure dans sa tente et accomplit dans la sphère que Dieu lui a assignée accomplit un acte d'une portée immense et va remporter une victoire extraordinaire sur l'oppresseur du peuple de Dieu, de sorte qu'elle attire sur elle cette bénédiction, cette faveur de Dieu, bénie soit au-dessus des femmes, verset 24, Jaël, femme de Héber, le Kénien, qu'elle soit bénie au-dessus des femmes qui se tiennent, l'Esprit de Dieu le souligne à nouveau, qui se tiennent dans les tentes. Jaël est donc un exemple pour la femme dans tout ce que Dieu peut lui confier, mais en même temps accomplissant cette tâche dans la sphère que Dieu lui a assignée. Les femmes, qu'elles soient bénies au-dessus des femmes qui se tiennent dans les tentes. Lui a brisé la tête, lui a fracassé la tempe. Cette femme s'est servie des moyens, des simples moyens que Dieu mettait à sa disposition. Se servant de la main gauche et de la main droite, les armes de notre guerre, évidemment, ne sont pas charnelles aujourd'hui, mais elles sont spirituelles, et elles sont puissantes par Dieu, car l'Esprit de Dieu peut-il diminuer de puissance en quoi que ce soit? Pour la foi, tout est toujours possible. Si même l'Esprit de Dieu ne peut plus agir comme au commencement, étant donné l'état général de l'Église, mais pour le croyant individuellement, nous l'avons vu tout à l'heure, peut compter sur Dieu, les ressources du commencement demeurent. Alors cette femme s'empare d'une main du pieu et de sa droite le marteau des ouvriers. Elle a des petits moyens, des moyens désuets sans doute, pour vaincre un tel général, pour mettre à mal toute son armée. Pour les hommes, il eût fallu mobiliser combien de forces, combien de génies. Cette femme suffit dans la main de Dieu. Dieu se glorifie. Ma puissance ne s'accomplit-elle pas dans l'infirmité, avec un marteau, avec un pieu, ce qui était là dans la tente à sa disposition, moyen faible, désuet, cette femme va se trouver au cœur de la délivrance du peuple de Dieu, détruisant celui qui en était l'ennemi le plus implacable et le plus puissant. Dieu lui-même intervenant dans cette tornade sans doute qui n'a rien laissé de tous ces chars impressionnants qui se trouvaient à la disposition de l'ennemi. Voilà donc encore quelques leçons que nous retenons, que nous recevons au travers de cette famille qui s'identifie, qui se joint, qui s'entrelace à l'histoire du peuple de Dieu, mais nous donnant chaque fois l'image d'un peuple fidèle, d'un peuple constant. L'Éternel devait dire de son peuple par le prophète Jérémie, comme il le dira dans le livre des Psaumes, « Oh, s'ils avaient toujours eu ce cœur-là, je me souviens de toi, dira-t-il, de la grâce de tes fiançailles, de l'amour de ta jeunesse, quand tu as commencé le chemin du désert. » Hélas, quelle décadence! Quelle décadence! Quelle décrépitude! Quel état de choses affligeant pour le cœur de Dieu jusqu'au moment où, par le prophète, au jour de Jérémie, nous le verrons peut-être ensemble, le Seigneur devra dire maintenant. Quelle constatation affligeante! Quelle chose pénible à prononcer pour Dieu lui-même. Maintenant, il n'y a plus de remède. Que pouvais-je encore faire pour ma vigne? Dites-moi, le Seigneur consent à ouvrir un dialogue avec l'homme. Dites-moi, j'avais une vigne, je l'ai plantée sur un coteau fertile, j'en ai pris soin de toute manière. Et puis, elle n'a donné que du raisin sauvage. Mais dites-moi, y avait-il encore quelque chose à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait? N'aurais-je pu encore ajouter quoi que ce soit pour obtenir du fruit? Maintenant, il n'y a plus de remède. Voilà donc, au contraire de la conduite d'Israël, une famille étrangère dans laquelle nous allons trouver des vertus pleines d'enseignements, pleines d'encouragements qui sont des exemples pour la foi des élus de Dieu dans tous les temps. Si vous voulez bien, nous avons encore un petit moment, nous voulons aller plus loin dans cette histoire et lire maintenant dans le premier livre de Samuel, chapitre 15 du premier livre de Samuel, Il y a un petit épisode intéressant qui se lie donc à cette histoire. Saül est monté sur le trône et il a donc été roi par Samuel. Un des premiers devoirs, c'est de liquider ce qui restait en suspens à l'égard des Amalékites qui s'étaient opposés à la sortie d'Israël, à l'entrée plutôt, à la poursuite en avant du peuple de Dieu dans le livre de l'Exode, chapitre 16. Nous avons évoqué cela en quelques instants hier ensemble. Dans le chapitre 15 du premier livre de Samuel, il lui est dit à Saül, « Va maintenant, verset 3, et frappe Amalek, et vous détruirez entièrement tout ce qui est à lui, et tu ne l'épargneras pas, mais tu feras mourir les hommes et les femmes, les enfants, etc. » Alors, au verset 5, « Et Saül vint jusqu'à la ville d'Amalek, et il plaça une embuscade dans la vallée. Et Saül dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, descendez du milieu des Amalékites, de peur que je ne te détruise avec eux. Car toi, tu usas de bonté envers tous les fils d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et le Kénien se retira du milieu d'Amalek. Et Saül frappa Amalek depuis Avila en allant vers Shur qui est en face de l'Égypte. Voici une petite scène rapportée dans le premier livre de Samuel qui illustre le fait que Dieu est un Dieu de mesure. Le jugement que Dieu exerce n'est pas aveugle, n'est pas arbitraire. Dieu proportionne le jugement toujours au privilège que nous avons reçu. La mesure du jugement, la mesure de gravité et la gravité du jugement dépend de la position dans laquelle nous étions placés. Autrement dit, le Seigneur ne manque pas de rappeler que celui qui a connu la volonté de son maître et qui ne l'a pas accompli sera battu de beaucoup de coups. Au contraire, celui qui ne l'a pas connu aura comme jugement une mesure, connaîtra comme jugement une mesure beaucoup moindre. Ici, Dieu rappelle par la bouche même de Saül, mais la chose est vraie que au commencement, cette peuplade a usé de bonté à l'égard des fils d'Israël, contrairement à l'attitude d'Amalek. Amalek est tombé en queue sur le peuple de Dieu, comme nous le lisons dans le chapitre 16, Amalek, parent d'Ésaü, et qui est à la solde de l'ennemi pour empêcher le peuple de pénétrer plus avant dans le chemin qui le conduit vers la terre promise, vers Canaan. Au contraire, le Kénien s'est joint au peuple de Dieu, lui a favorisé les choses, de telle manière que cette famille a traversé le désert et se trouve avec les fils d'Israël dans la terre d'Israël. Aujourd'hui, que le jugement a sonné, Dieu a un temps de patience sans doute, mais si la patience de Dieu est salue, elle a pourtant un terme. Et l'exercice du jugement de Dieu fait partie des nécessités de sa gloire. Nous ne pouvons pas nous moquer de Dieu, et encore moins recevoir ce salutisme général qui comporte comme slogan « Dieu est bien trop bon que pour exercer le jugement ». Ce que vous dites ne correspond à aucunement au caractère de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter de tels enseignements. Dieu est un Dieu de bonté, il fera grâce à tous. Cela, c'est l'évangile du diable. Et si nous voulons connaître, après tout, quelle est l'appréciation de Dieu à l'égard du mal, où allons-nous la trouver? Dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos raisonnements, dans nos appréciations, avec nos mesures toutes fausses, nous trouvons cette appréciation lorsque, derrière le voile obscur, impénétrable, pendant les 3 heures de ténèbres, Dieu sort son épée. Épée, réveille-toi contre l'homme qui est mon compagnon. Lorsque l'arc d'airain est bandé et que les flèches du carquois de Dieu vont pénétrer jusqu'au fond de son âme. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les vagues de la colère de Dieu
allumé selon sa sainteté, comme les chérubins dans le temple attestaient, leurs ailes étendues, touchant le mur d'une part, le mur d'autre part, 20 coudées pour les chérubins aux ailes étendues, les agents qui requièrent l'application de la justice de Dieu par voie judiciaire, 20 coudées, c'est-à-dire selon les mesures du sanctuaire lui-même. Et l'autel sur lequel la victime a été offerte, quelle grâce pour nous. Nous mesurons cet autel en face de la maison de Dieu bâtie, le palais bâti au jour de Salomon. Quel bonheur pour nous, ce sont les mêmes mesures, 20 coudées pour l'autel de largeur, 20 coudées de longueur, exactement comme les 20 coudées des chérubins et les 10 coudées de hauteur, mais de toute manière la leçon est solennelle. Le jugement du mal, l'appréciation du mal est d'après la sainteté de Dieu, saint, saint, saint est l'Éternel des armées, c'est-à-dire que les délices de sa nature, c'est d'être entièrement séparé du mal. Si l'énergie de la nature de Dieu, c'est l'amour, la sainteté, c'est d'être entièrement loin du mal, séparé de tout mal. Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre. Le jugement tombe sur les Amalékites, les ennemis du peuple de Dieu, comme il tombera tout à l'heure sur cette chrétienté qui méprise les si grands privilèges que Dieu lui a donnés. N'ayant plus qu'une forme de piété, sans la puissance, associant le nom de Dieu aux choses qu'il aborde de la manière la plus formelle, appelant le mal bien, le bien mal, ayant dit le prophète, il a déjà écrit cela il y a 27 siècles, appelant le mal bien et le bien mal, changeant le statut, violant l'alliance, ébranlant les fondements que Dieu a établis, en ne parler que ceux de la famille pour commencer. Mais, en agissant ainsi, attire sur lui, attire sur eux, car le mal que l'on commet comporte en soi-même son propre correctif, attirant sur eux le jugement de Dieu, accumulant sur eux, dira l'apôtre, le jugement qui va tomber lorsqu'il va descendre, lui, en flamme de feu, pour écraser tous ses ennemis, tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que les Kenyans, image d'un peuple fidèle, attaché à Israël et attaché à l'Éternel, se trouve donc épargné de ce jugement. Encore un mot, et nous nous arrêtons pour ne pas vous lasser, vous fatiguer. Nous lirons encore dans le premier livre des Chroniques. Et peut-être trouverons-nous là l'anneau, mais nous ne voulons rien affirmer, nous nous bornons d'ailleurs à rappeler ce qui a été suggéré, et qui ferait une belle histoire à travers tout l'Ancien Testament. Trouvant peut-être dans le passage que nous allons lire, le maillon qui relie cette famille si remarquable au jour de Jérémie, les Rechabites, aux Kenyans dont l'histoire commence dans le lointain passé au jour de Moïse. Mais nous n'affirmons rien, si les choses sont placées devant nous, nous avons quand même considéré cette histoire et quelques épisodes dont la portée morale, la portée typique, ne manque pas d'intéresser et d'être un exemple pour chacun de nous dans les jours qui nous ont atteints. Dans le livre des Chroniques, au chapitre 2, nous avons un verset ou deux dans une généalogie. Souvent, nous nous disons, ce n'est pas très utile de lire les généalogies, ce sont des noms si difficiles à lire pour commencer, de longues listes, et il ne semble pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt dans cette lecture. Mais toute parole de Dieu est pourtant divinement inspirée. Et il y a de véritables perles dans les généalogies. Nous allons essayer, pour nos jeunes amis, d'en situer une précisément en relation avec le verset que nous allons citer, plus un petit passage au chapitre 5. Mais dans le chapitre 2, nous avons ceci. À la fin d'une longue liste relative à la tribu de Juda, au verset 54, et les familles des scribes habitant Jabès, deux points, ces familles se subdivisent en les Tiratiens, les Shimatiens, les Sukatiens. Ceux-là sont les Kéniens, qui sont sortis de Hamath, père de la maison de Rekab. Si les Kéniens ici sont bien ceux dont nous avons quelques histoires, quelques rapports dans les livres précédents que nous avons lus ensemble, nous aurions donc, vous le voyez bien, le trait d'union, le chaînon qui relie cette famille de Kéniens à la maison de Rekab, c'est-à-dire la dernière phrase de ce verset 55. Alors, Jabès est donc un endroit ici, une ville, un hameau peut-être, dans le verset 55, habitant Jabès. Et on a suggéré aussi, en tournant la page au chapitre 4, c'est pas au chapitre 5, c'est au chapitre 4, excusez-nous, au verset 9, et Jabès fut plus honoré que ses frères. Et sa mère l'avait appelé du nom de Jabès, disant « Je l'ai enfanté avec douleur ». Et Jabès invoqua le Dieu d'Israël, disant « Si tu me bénissais abondamment, si tu étendais mes limites, et si ta main était avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je fusse sans douleur. » Et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Trouvez-vous pas que c'est une touchante histoire enclavé dans une longue liste de noms, quelque chose qui nous paraîtrait un peu stérile, un peu sec, un peu manquant d'intérêt, tout à coup nous découvrons une toute petite histoire pleine d'intérêt d'un certain Jabès, dont le nom veut dire douleur, et qui aurait sans doute nous insistons, donné son nom au hameau dont il est question dans le chapitre 2. Et où se trouvait à l'origine cette famille des Rekabites. Mais arrêtons-nous pour terminer, si vous voulez bien, un instant sur cet homme qui fut plus honoré que ses frères. Sa mère, la mère de Jabès, semble bien qu'elle accepte la sentence que Dieu a prononcée après la chute. Elle se soumet donc entièrement à ce que Dieu a déclaré, à ce que Dieu a établi pour l'homme comme conséquence de sa faute, pour la femme, quant à l'enfantement qu'elle allait connaître. Cette femme se place donc sous la main de Dieu et reconnaît que Dieu, selon son gouvernement, selon son caractère, agit de cette manière et qu'il n'y a qu'une seule attitude, une seule vraie attitude, celle de se courber sous la main de Dieu, sans regimber. Voilà les conditions pour être béni, nous courber sous la main de Dieu lorsqu'elle s'appuie sur nous. Et cette femme reconnaît donc la réalité, l'opportunité de la sentence de Dieu en appelant son fils Jabès. Elle met en pratique ce que nous trouvons au chapitre 3 et au verset 16 du livre de la Genèse. Elle cherche si peu à se soustraire à cette sentence qu'elle transmet en fait la substance même de la sentence dans ce nom. Jabès, elle transmet cette connaissance qu'elle a, cette soumission dont elle fait preuve, dans la douleur, elle la transmet à son fils. Et son fils Jabès va dire « Ma mère m'a enfanté avec douleur. » Quelle est la ressource au milieu d'une scène de désordre, dans une scène où le péché a tout gâté, où nous sommes devenus tous concernés, confrontés, identifiés avec la douleur, c'est-à-dire les conséquences du péché? Qui pourra nous guérir? Qui pourra nous sauver? qui pourra adoucir notre sort? Quel est le système philosophique? Quelle est la morale? Quel est le grand médecin? On a appelé, disait quelqu'un, au chevet du malade, les plus grandes sommités. On a fait appel aux capacités les plus grandes, mais le malade est toujours dans ce même état. Au contraire, cet état s'aggrave, et nous sentons bien que cela est sans remède. Mais cet homme va mettre en activité ce que nous avons maintenant devant nous avec une clarté, avec une évidence si précieuse pour nos âmes. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, quel que soit son état, quelle que soit sa misère, quelle que soit la douleur dans laquelle il se trouve à la suite du péché. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car le même Seigneur, dit Paul, est riche, le même Seigneur des Juifs et des Gentils est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Et tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent, aucun n'a été confus. Il invoque le Dieu d'Israël. Et en invoquant le Dieu d'Israël, il invoque qui? Eh bien, sans qu'il l'ait réalisé sans doute, il invoque le Seigneur Jésus-Christ, car le Dieu d'Israël, c'est Jéhovah, c'est l'Éternel, c'est Jéhoshua, c'est Josua, c'est Josué, c'est, après tout, Jésus. Il invoque le nom du Seigneur, et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, car il n'y a pas d'autre nom qui soit donné sous le ciel par lequel il nous faille être sauvés. Cet homme, d'accord avec sur le principe que sa mère a respecté entièrement, réalisant son infirmité, sa douleur, ses besoins, son état sans remède, il trouve écho dans le cœur de Dieu, un Dieu de toute grâce, un Dieu miséricordieux qui veut guérir, qui veut bénir, qui veut soulager. Il invoque le nom du Dieu d'Israël, en lui disant, si tu me bénissais abondamment, béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions que Dieu avait en réserve pour nous sont les plus hautes, les plus précieuses qui soient. Les pensées les plus chères au cœur de Dieu sont celles qu'il a réservées en dernier lieu par l'apôtre, lui donnant de grandes et extraordinaires révélations. Et en vertu de ceux qui étaient le plus loin de lui, c'est-à-dire gens des nations, pauvres, gentils, sans droit de cité en Israël, sans Dieu dans le monde, sans espérance, mais maintenant, vous qui étiez loin, vous avez été approchés par le sang du Christ, et nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, accès, hardiesse, en confiance, jusqu'au cœur de Dieu, jusqu'au trône de Dieu, jusque dans le sanctuaire, où toutes nos bénédictions sont liées à Christ pour l'éternité, si tu me bénissais abondamment. Les bénédictions que nous avons en Christ, d'un prix inestimable, insurpassable, assurées en celui qui a vaincu la mort, qui a traversé tous les cieux, et qui est là la forme et l'expression parfaite de ce que nous allons être tout à l'heure, lorsque, selon ce pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, va transformer notre corps d'abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Si tu me bénissais abondamment, si tu étendais mes limites, que Dieu nous accorde la grâce de les étendre, de saisir toujours plus, et l'homme intérieur fortifié par son esprit, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, de quoi s'agit-il? Sans doute, de tout le propos de Dieu, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Y a-t-il domaine, y a-t-il acquisition plus précieuse que ses limites, que Dieu veut élargir devant nous? sans doute un vase bien faible, bien limité, mais rempli de cette plénitude de Dieu. Si tu étendais mes limites, si ta main était avec moi, selon que la bonne main de notre Dieu était avec nous, dira Ezra. Et les premiers croyants persécutés, au jour d'Étienne, s'en sont allés parmi les nations, ont prêché l'évangile, et voilà qu'une assemblée, la première assemblée gentille, a trouvé naissance par le moyen de cette prédication. Et il est dit de ces premiers croyants qui étaient chassés de Judée, dans la détresse, dans la persécution, mais la main du Seigneur était avec eux. Si ta main était avec moi, si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je fusse sans douleur. Si tu me mettais à l'abri du mal, quelle prière opportune. Je ne fais pas la demande, dit le Seigneur, que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Y a-t-il, homme, quelqu'un plus malheureux que le croyant, qui, hélas, s'est laissé aller dans quelque mal, sans qu'il l'ait jugé, sans qu'il l'ait abandonné, ne jouissant plus ni de la terre, ne jouissant pas de la terre, ce n'est pas son domaine, et ne jouissant plus du ciel. Seigneur, dans sa prière, prie pour les siens, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'il soit gardé du mal. Et s'il en est ainsi, rendu attentif à cet enseignement si précieux du Seigneur, s'il en est ainsi, Seigneur intervient, nous serons gardés dans notre chemin de chute, hélas de tout ce qui nous écarte du chemin dans lequel nous pouvons être heureux, et notre rassemblement alors, nous serons heureux dans notre âme individuellement, et notre rassemblement autour de lui. Et que la grâce du Seigneur, s'il nous l'accorde, fasse qu'il en soit ainsi demain, nous serons alors heureux tous ensemble autour de lui, anticipant ce que nous allons connaître bientôt, en plénitude, dans la gloire dans laquelle il veut nous introduire.